Je vous salue chaleureusement. Semaine prochaine, on aura la chance d'avoir un temps de questions-réponses par rapport à ce qu'on a vu dans Éphésiens. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, car ce sera un temps où, en fait, on aura un échange à la fin. J'aurais prié, m'adresser à Dieu avant de démarrer, et puis on va commencer. Notre Dieu, notre Père, on est reconnaissant que tu es un Dieu qui n'est ni lointain ni absent, un Dieu qui parle, un Dieu qui te fait connaître. Et nous prions maintenant que, comme nous l'avons chanté, tu nous parles par ta parole. Amen. Le 10 juin 1994, les membres d'une famille et un groupe d'amis sont rassemblés dans le bureau d'un avocat en Californie, aux États-Unis, pour lire le testament de Madame Thelma Pearl Howard. Thelma est décédée paisiblement dans une maison de retraite quelques semaines auparavant, seulement 16 jours avant son 80e anniversaire. D'un point de vue extérieur, Thelma Howard vivait une existence paisible et très modeste. Sa plus belle réussite avait été de travailler en tant que femme de ménage pour Walt Disney pendant plus de 30 ans. Durant cette période, Thelma cuisine aussi tous les repas de Walt et l'aide à élever ses deux enfants. Pour ce travail, elle touche un modeste salaire annuel, peut-être un tout petit peu plus élevé qu'une femme de ménage ordinaire, étant donné la célébrité et la richesse de son employeur, mais néanmoins modeste. Pouvez-vous imaginer le choc ce jour-là dans ce bureau quand l'avocat de Thelma annonce qu'elle lègue à sa famille un héritage de plusieurs millions de dollars? Comment cette modeste femme de ménage avait-elle pu amasser une telle fortune? Eh bien, en fait, chaque année, pendant plus de 30 ans, à Noël et à son anniversaire, Walt Disney lui offrait une part de la richesse que son entreprise, Walt Disney Studios, créait. Les petites flaques d'eau ont commencé à former des rivières, qui ont commencé à former des fleuves, puis une somme considérable s'est accumulée au fur et à mesure que l'entreprise fleurissait pour devenir le géant des médias que nous connaissons aujourd'hui. Sans que sa famille le sache, Thelma Howard était en fait une femme très, très riche. Un héritage considérable, une influence, un statut, une sécurité dont la connaissance change radicalement l'existence. Encore faut-il le savoir. Et quand on en arrive à la prière de Paul que Antoine nous a lue, c'est à peu près la même chose. La prière de Paul démarre avec un « c'est pourquoi ». Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens à Éphèse, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. C'est pourquoi fait ici un lien entre la partie qui précède, les versets 3 à 14, où Paul a énuméré la fortune considérable que possèdent tous ceux et toutes celles qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. Élection, adoption, rédemption, connaissance des intentions de Dieu, héritage, c'est jackpot! Une pluie de bénédictions spirituelles dans le coffre-fort bien gardé du lieu céleste, dont la clé est la personne de Jésus-Christ. C'est en lui, dans la foi en lui, il est notre Walt Disney qui a accumulé des richesses pour nous afin de nous bénir en abondance. Encore faut-il le savoir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, parce que l'on soit croyant ou non, on a tous soif de plus. On a soif de bénédiction. Et bien souvent, les chrétiens sont aussi assis sur un trésor, mais ils vivent comme des smicards. Beaucoup de chrétiens sont multimillionnaires, mais ils se privent de la jouissance de leur héritage. Or, la connaissance de ces bénédictions est capitale, parce que la connaissance dans Éphésiens, c'est la clé d'un réel changement. Regardez juste à la page d'après, en Éphésiens chapitre 4, verset 20, page 768. Éphésiens 4, verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Et regardez verset 22, juste deux versets plus bas. « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, à votre ancienne manière de vivre, qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. » C'est capital, c'est le changement auquel on aspire tous. On aspire à soif de plus, de bénédiction, de changement. Et tout cela est possible dans cette connaissance. Cette connaissance qui mène à un vrai changement, un changement radical de notre quotidien. Pour Paul, trop peu de Jésus mène à trop peu de changement. Et c'est pourquoi il prie. Il prie une prière qu'on appelle dans la tradition chrétienne une prière d'illumination. Une prière d'illumination pour que notre connaissance mène à un changement de vie. Alors, avant d'observer les différentes parties de cette prière, une précision concernant l'illumination, qui est un terme qui est commun à plusieurs religions, notamment orientale ou mystique. Mais pour Paul, il ne s'agit pas d'une prière ou d'un état d'éveil qui vise l'abandon de soi ou l'effacement de l'ego ou d'expériences détachées de l'enseignement biblique. Ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. La prière d'illumination dont Paul nous parle ici, c'est une prière qui est centrée sur le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, sur ses plans, sur ses projets. Et c'est une prière qui est, dont l'expérience est authentifiable bibliquement. Paul prie pour que nous prions nous aussi. Et donc on voit deux parties majeures dans cette prière. On voit une intercession dans les versets 15 à 19. Et puis on voit une contemplation dans les versets 20 à 22. Je vais vous expliquer ces deux termes. Intercession, contemplation. Paul prie. Paul intercède. Paul demande quoi ? Paul demande la réalisation des bénédictions des versets 3 à 14 dans la vie de ses lecteurs. Regardez encore verset 17, s'il vous plaît. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse quoi ? Connaître. En fait, si on observe attentivement le contenu de cette prière, que voit-on ? On voit qu'il s'agit à l'intégration d'un niveau plus profond de l'être, de la personne que la Bible parfois appelle le cœur, l'intégration des bénédictions spirituelles. On a le vocabulaire en commun. Il est question ici du Père de gloire. Or, on sait que Dieu a tout fait en Christ pour la célébration de sa gloire. Il est question de son appel, de son héritage. Or, on sait que nous sommes choisis, que nous avons été adoptés, que nous participons à cette grande réunion cosmique dans l'Église, dont l'Église locale en est l'expression particulière et un avant-goût. Il est question d'avoir cru. Or, on sait que les premiers lecteurs et nous, si nous sommes chrétiens cet après-midi, nous qui avons aussi entendu et cru dans l'Évangile, alors c'est bénédiction spirituelle pour nous. Voyez les liens entre les deux parties, 3 à 14, 15 à 17. Les bénédictions sont glorieuses. C'est la richesse. C'est jackpot. Encore faut-il le savoir. Voyez, Paul prie. Pas pour de nouvelles révélations, pas pour des expériences sensationnelles. Paul prie pour qu'on comprenne ce qu'on sait déjà. Paul prie pour qu'on comprenne ce qu'on sait déjà. Il prie une prière vintage. Vintage, c'est vieux, mais c'est terriblement bon. Et dans notre ère digitale, vous et moi, on nage dans un gigaoctet de data et d'informations et de promesses d'expérience. Une information que j'avais lue, c'est que, a priori, en une année, on produit plus d'informations, de data dans le monde que dans toute l'histoire de l'humanité. Chaque année, on est exposé à toutes ces infos, à tout ce qu'il faut savoir, mais au fond, on est tous assoiffés de réalité, assoiffés d'expériences bouleversantes, assoiffés de connaissances. Sauf que ces connaissances de gigaoctets ne nous changent pas à un niveau profond. On en a bien souvent marre d'être à la recherche du vent. On en a marre d'être dans le vent parce qu'on sait bien, comme le disait l'écrivain Gustave Thibon, être dans le vent, c'est l'expérience d'une feuille morte. Alors si c'est le cas, si c'est ce que tu ressens cet après-midi au fond de toi, d'être assoiffé, de faire trop peu d'expériences qui te changent réellement, renouons avec cette prière vintage, cette prière d'illumination. Prions Dieu qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir. Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Vous ne le saviez peut-être pas cet après-midi, mais votre cœur possède des yeux. Le cœur, dans la Bible, c'est le quartier général de l'être humain. C'est la source à la fois de sa vie physique, mais aussi intérieure, avec ses sentiments et ses émotions, le lieu de retrait où il prend ses décisions. Et ce lieu, ce cœur, a besoin d'éclairage. Pourquoi ? Parce que les yeux du cœur ont besoin de lumière. Pourquoi ? Pourquoi ce cœur a-t-il besoin de lumière ? Parce qu'à un certain niveau, on sait des choses qu'à un autre niveau, on ne sait pas. On sait des choses qu'on ne sait pas réellement. Et c'est particulièrement vrai quand on est chrétien. Il y a quelques années, j'étais dans un tête-à-tête avec un jeune homme qui venait de devenir chrétien, d'avoir fait cette rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Et dans cette découverte, beaucoup de changements sont intervenus. Il a acquis une nouvelle compréhension de son identité en Jésus-Christ. Il a acquis une sécurité intérieure, une paix à cause de l'assurance du pardon de ses péchés. Et sa vie changeait. Et donc nous sommes autour de cette table en train de prendre un café. Et puis nous parlons de la relation qu'il a avec ses parents. Et à un moment, son visage s'assombrit. Il était en échec dans plusieurs domaines de sa vie. Il essayait d'expliquer avec ses mots pourquoi c'était si difficile. Et dans un souffle, il utilise un mot un peu plus vulgaire que je ne vais pas réutiliser ici. Il dit, tu sais pourquoi c'est si difficile ? C'est parce que toute mon enfance, mon père m'a traité comme si j'étais un imbécile. Et après une pause silencieuse, je le regarde et je lui dis, ton père n'avait pas le droit de te parler ainsi, de te traiter comme ça, parce que tu es une créature qui est créée à l'image de Dieu. Ce qui veut dire dans le langage biblique qu'elle a une dignité intrinsèque. Tu as une dignité, une valeur immense. Tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Et là, je vous fais bien entendu un résumé de cette conversation que j'ai eue avec lui ce jour-là. Mais au fur et à mesure qu'il saisissait à nouveau dans son cœur qui il était en Jésus-Christ, ce que Dieu avait donné pour lui, son visage s'illuminait. Ne savait-il pas déjà qu'il était créé à l'image de Dieu, qu'il avait une valeur infinie ? Bien sûr qu'il le savait. Mais vous voyez, à un niveau, on sait des choses qu'à un autre niveau, on ne sait pas. C'est pourquoi on a besoin de prier. Prier que Dieu nous montre, nous révèle, qu'il nous fasse connaître le Christ, qu'il nous révèle encore le Christ et qu'il nous fasse rayonner sa face sur nous afin que nous puissions réellement savoir avec notre cœur, qu'on le sache au fond de nos tripes, afin de changer vraiment. Malheureusement, beaucoup de personnes, à notre époque, ont confondu une connaissance de Dieu avec une connaissance sur Dieu. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que certains d'entre nous sont fâchés avec l'Église ou avec des gens religieux, parce que ces personnes prétendaient connaître Dieu, mais leur vie racontait une autre histoire. La théologie, c'est-à-dire la connaissance sur Dieu, devient une idole quand elle n'est plus au service de notre relation avec le Christ ressuscité. Si nos lectures de la Bible, nos chants, nos écoutes de prédication ne favorisent pas une connaissance relationnelle de Dieu qui mène à un changement de notre personne, alors c'est peut-être que nous sommes tombés dans ce piège d'une confusion entre connaître des choses sur Dieu et connaître réellement Dieu. De même, peu d'enthousiasme pour Christ et ses bénédictions, un manque d'affection pour Dieu et son peuple est symptomatique d'une apathie spirituelle qui est un fléau dans nos églises. Qu'est-ce que c'est l'apathie spirituelle ? C'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien pour Dieu et pour les membres de son peuple. Et dans des rassemblements d'églises où on a des gens peu satisfaits en Christ, un manque de zèle, d'ardeur pour l'Évangile, pour ses bénédictions, montre qu'on en est quelque part atteint. Et si c'est votre cas, comme c'est souvent le mien aussi, eh bien la prescription pour en guérir, c'est 1. La repentance, c'est-à-dire reconnaître devant Dieu qu'on ne ressent pas, qu'on n'expérimente pas les choses qu'on devrait ressentir et expérimenter en sa présence, et que c'est grave. Et deuxièmement, après la repentance, il y a cette prière d'illumination. Souvent les matins, je supplie Dieu, dès le lever du soleil, « Père de gloire, s'il te plaît, par ton esprit, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir derrière les mots, derrière les phrases, derrière la grammaire de ta parole, que je puisse voir les merveilleuses réalités qui sont en Christ. Est-ce que tu veux faire cela pour moi ?» Repentance et prière d'illumination pour ceux et celles qui aspirent à du changement, à ceux et celles qui sont assoiffés de spiritualité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dis que cette prière d'illumination est un remède ? Parce qu'en fait, à la fin de cette prière, on note que Paul s'arrête sur la dernière pétition, c'est-à-dire la dernière partie de sa prière, pour contempler avec une netteté accrue la puissance du Christ ressuscité. Deuxièmement, la contemplation, versets 20 à 22. Et moi, je n'avais jamais vu ça auparavant. Mais Paul, il est en train de modeler une prière pour les chrétiens, et après avoir formulé une reconnaissance de la foi de ces Éphésiens, après avoir intercédé pour eux, il est en train maintenant de contempler. Chaque moment de cette prière, c'est un peu l'expression de ce qu'il est en train de faire quand il prie, de ce qu'il ressent dans son âme. Il se met à voir. Reprenons verset 18 jusqu'à la fin. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute souveraineté et tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ok, on revoit ça ensemble. Verset 19. Paul prie que les chrétiens réalisent quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Il se met à voir ensuite cette puissance se déployer en Christ quand il l'a ressuscité, fait revenir d'entre les morts pour l'installer sur son trône céleste pour un règne triomphant et éternel sur toute chose. C'est dur de changer. C'est dur de changer. C'est bien beau d'avoir des amis, d'avoir des enfants, d'avoir une femme qui vous le dit. Tu as besoin de changer là-dessus. S'il te plaît, change. Mais c'est dur de changer. On a besoin d'aide, de motivation, d'un coach. Parfois, de force, on a besoin de puissance. Eh bien, cette puissance, elle est disponible auprès de Jésus-Christ. Je me souviens le jour où mon téléphone a sonné. C'était la maman de Chloé qui nous avertissait en sanglots que son père, Guy, le grand-père de Chloé, avait fait un AVC. Et donc se retrouver transporté d'urgence à l'hôpital. On prend nos manteaux, on file aux urgences et là, étendu sur son lit d'hôpital, nous découvrons Guy, les yeux fermés. Nous pleurons. Et puis on lui lit le psaume 23. Les mots sont étouffés par les sanglots et le brouhaha dans cette salle d'urgence d'hôpital. Et tandis que je lis ce psaume à ce saint qui est en train de partir, je réalise peut-être pour la première fois ce qu'est la mort. Qu'est-ce que la mort de ce côté-ci? Ben, la mort, c'est la fin. La mort, c'est irréversible. C'est définitif. Combien de puissance il faut pour ressusciter un mort? 2000 kilowatts? 60 ampères? 2 millions de calories? Non. Il faut une puissance infinie. Et c'est cette puissance infinie qui était à l'œuvre quand Christ est revenu à la vie après sa mort, sur la croix, pour monter dans les lieux célestes et démarrer son règne triomphant. Et devinez quoi? Ben, c'est cette même puissance, maintenant, qui est à l'œuvre dans votre vie, envers nous qui croyons. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal cet après-midi à l'EGE. La réalité vous semble fade à présent? Vous êtes assoiffé de changement? Est-ce que vous êtes fatigué de ne pas voir ou peu voir de changement dans votre vie? Vous voulez faire des vraies expériences bouleversantes? Ressentir des vraies choses pour Dieu? Contempler? C'est là, dans ce texte. Contempler celui qui est revenu d'entre les morts pour s'asseoir sur son trône et démarrer son règne éternel au-dessus de toute domination, toute autorité. Il n'est jamais frustré et il n'est jamais lassé de nous donner sa puissance à nous, à ceux et celles qui rêvent de changement. Christ règne sur l'ensemble de l'univers, en particulier dans l'Église. Sa connaissance change quoi? Elle change tout. Plus besoin d'avoir peur. Rendez-vous compte, chaque bénédiction est une réponse à nos besoins fondamentaux. On se sent dans l'insécurité. Eh bien, nous avons été élus, choisis par Dieu. On a peur d'être abandonné. Peut-être on se sent abandonné. Dieu, dans son amour, nous a adoptés. On se sent coupable, honteux. Il y a sa rédemption. On se sent planté, on ne sait plus trop aller dans la vie. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Nous avons la connaissance de son plan. Vous sentez fauché cet après-midi ? Peut-être les étudiants, oui, se sentent fauchés. Hein. Vous avez un héritage dans les lieux célestes, incorruptible, qui ne s'expire pas et qui ne vous mènera jamais banqueroute. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes encore aujourd'hui réellement bénis. Et il est bien meilleur que Walt Disney en répondant à toutes nos soifs et à nos inspirations ultimes de réalité, de joie et de satisfaction. Alors, un mot pour ceux et celles qui voudraient croire, mais qui ont du mal. Entrez dans cette relation vivante avec Jésus. En Jean, chapitre 7, verset 17, Jésus déclare « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Approchez-vous de Jésus. Entrez dans une relation vivante avec lui. Écoutez-le. Suivez-le. Et quelle est la promesse de Jésus ? Vous saurez si mon message est vrai ou s'il est faux. Il vous montrera ce qu'il est vraiment. Dieu. Dieu orchestre des rencontres. Peut-être c'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui assis sur une chaise dans une église. Si tu as soif de plus, si tu veux changer, si tu veux toucher le jackpot, Jésus est là encore cet après-midi et il est prêt à te l'offrir. Et si tu commences à voir, ne tarde pas, viens à lui. Demande-lui de devenir le souverain qu'il est par ailleurs dans tout l'univers. J'ai commencé à voir des rectangles et des carrés. Et je pouvais même distinguer les motifs les uns des autres. Par exemple, j'ai vu le visage d'une personne et d'un chien. Devenu aveugle à cause d'un trouble nerveux, je ne parlais pas de moi, mais de Bernadetta, qui a recouvré provisoirement la vue grâce à une équipe de scientifiques espagnols. Sur son lit d'hôpital, elle s'adresse aux journalistes, qui la prend en photo et elle a un large sourire. Pleine de joie, elle déclare « C'est une expérience incroyable. Je n'ai pas de mots pour la décrire. Rendez-vous compte, après des années sans voir, elle peut enfin s'émerveiller, jouir et contempler. Voir, c'est vital. Nous avons besoin de voir. Ne restons pas assis sur notre trésor en nous contentant des miettes, mais venons toucher le jackpot. Demandons à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir le Christ avec ses bénédictions et son triomphe. Notre vie va considérablement changer. J'aimerais prier pour terminer et inviter ceux et celles qui le veulent aussi de prier. Et puis les musiciens viendront pour nous conduire dans les chants de la fin. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans un moment critique de notre vie pour certains d'entre nous, à nous demander si oui ou non ça vaut le coup d'écouter Jésus, de nous mettre à le suivre. Et je prie que dans cette prière que Paul fait, nous puissions voir tout ce qu'il y a dans la connaissance de Jésus-Christ, toutes ces bénédictions spirituelles qui nous font toucher le vrai jackpot, ce dont chacun d'entre nous, au plus profond d'entre nous, nous aspirons. Je prie qu'il se révèle à nous, que nous puissions le voir et que nous puissions goûter à l'efficacité de sa puissance pour changer vraiment. Amen.